Vous écoutez Beau Bruit sur CUT 89.5 FM de 11h à 13h chaque dimanche. Beau Bruit, une émission réalisée en partenariat avec Radio France Internationale, le département d'études françaises, l'Université de Toronto et l'Alliance française de Toronto. Soyez des nôtres sur CUT 89.5 FM Beau Bruit, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde.
Direct de Hart House, l'Université de Toronto. Bienvenue à Popourri Show. L'ingénieur du son, le capitaine de Vera, au microphone, Eric Kader, avec vous jusqu'à 13h sur www.ciit.fm. Aujourd'hui, en ce dimanche 12 février, mois du patrimoine africain, hommage à Toto Bissinthe et les rendez-vous de nos partenaires à Toronto. Noir et français, longue histoire culturelle et sociale, une émission proposée par Valérie Nidlon du magazine de la Marche du Monde, Radio France Internationale. Et nous allons aussi rendre hommage à Whitney Houston. Elle est décédée le 11 février, samedi 11 février, à 48 ans. L'annonce a fait l'objet d'une bombe à Hollywood. Et nous allons aussi passer en revue, si vous voulez, parler un petit peu de cette publicité que nous avons reçue du Consulat Général de France, une rétrospective de ce Robert Bresson, l'un des réalisateurs français de l'après-guerre, les plus vénérés, au TIFF Bell Lightbox jusqu'au 18 mars, une présentation du Consulat Général de France à Toronto. Chanson française, le groupe Zebba, de retour à la fête et à la politique, nouvel album, second tour, grâce à Radio France Internationale Musique, les rendez-vous de l'Alliance Française de Toronto. Et si vous souhaitez collaborer à notre émission tout au long de ce mois ou encore au mois de mars dans le cadre de la Journée Internationale de la Francophonie, pour nous joindre, cot.pourri@sympatico.ca. Bonne écoute, bon voyage, soyez là jusqu'à 13h. Et oui, elle nous a laissé le samedi 11 février. Whitney Houston n'est plus. L'annonce a fait l'effet d'une bombe à Hollywood. Whitney Houston est décédée à l'âge de 48 ans. La chanteuse aux 170 millions de disques vendus dans le monde a été retrouvée morte dans une chambre d'hôtel à Beverly Hills, 24 heures avant la soirée annuelle des Grammy Awards, équivalent américain des victoires de la musique. Les organisateurs ont décidé de bousculer la programmation de la soirée pour rendre hommage à la diva. Dans un communiqué, la chaîne américaine CBS annonce qu'elle prépare un hommage à l'une des plus grandes stars de l'industrie de la musique. Whitney Houston, lauréate de 6 Grammy Awards, était l'une des plus grandes chanteuses pop de tous les temps, a déclaré le président des Grammys, Neil Portnow. Elle laisse derrière elle un important corpus musical couvrant les 30 dernières années. Sa voix puissante a servi plusieurs chansons mémorables. Et un peu plus tard, l'un des producteurs de la cérémonie, Ken Ehrlich, a précisé sur CNN que Jennifer Hudson viendrait chanter en hommage à l'artiste décédée. La plus jeune femme avait reçu, je vous rappelle, en 2009, le trophée du meilleur album de R&B des mains de Whitney Houston. Donc, sans plus tarder, madame, messieurs, à notre façon, nous allons rendre hommage à notre façon à Whitney Houston sur une de ses grands succès.
Thank you.
Chaque année, en février, le mois de l'histoire des Noirs met en évidence des luttes et les triomphes de millions de Canadiens et de Canadiennes face à de terribles obstacles et leur contribution à la vie culturelle et politique du Canada. S'associant à ces célébrations, l'émission que vous écoutez en ce moment, Potpourri, rendra hommage à ces hommes, à ces femmes tout au long du mois de février. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos activités, de votre calendrier culturel ou communautaire. Vous pouvez nous envoyer votre message à pot.pourri@sympatico.ca ou nous téléphoner au 416-946-7000. Nous avons reçu plusieurs éléments justement très intéressants dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs édition 2012. De Montréal, on nous dit que présenté par la banque Toronto Dominion, d'ailleurs il y a beaucoup de firmes privées, hein, les grandes banques qui s'associent à ce mois. Alors à Montréal et au Québec, c'est une collaboration avec Astral, Fondu au Noir. C'est un programme tridimensionnel composé de cinéma, musique et danse dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, en collaboration avec le Festival international du film Black de Montréal. Fondu au Noir, j'avais jamais entendu ça, Fondu au Noir, est un événement qui célèbre la culture noire sous le thème « Mieux se connaître, c'est mieux se comprendre ». Créé par la Fondation Fabiana Cola, organisme artistique professionnel à but non lucratif voué à la promotion du cinéma, de l'art et de la culture noire, Fondu au Noir permet de se rappeler du passé afin de comprendre le présent et de mieux préparer l'avenir, le tout à travers le cinéma, la musique et la danse. Donc, Fondu au Noir se tient jusqu'au 25 février pour les gens qui sont dans la région du Grand Montréal ou même de Québec, de Trois-Rivières. Et donc, on vous invite d'y aller. S'il y a des pièces de présentation plutôt de films présentés en collaboration avec l'ONF à la rue Saint-Denis à Montréal. Et donc, il y a eu un coup d'envoi, des coups de cœur. Et en ouverture, d'ailleurs, il y avait le documentaire « Les derniers pèlerins » du Montréalais Will Prosper, qui a été présenté au Canal D, le grand Jérôme de Charles Olivier, Case départ de Thomas Njijol, et Fabrice Eboué et Lionel Sekepete, et oui, Fleur du désert de Sherry Ornan, ainsi que la première étoile de Lucien Jean-Baptiste, qui compléteront la programmation des soirées cinéma Astral. Je vous rappelle que le Festival Fondu au Noir offrira aussi des soirées de musique et de danse avec les grands spectacles Toronto Dominion qui présente les samedis 18 et 25 février au cabaret du Mill Inn des spectacles regroupant quatre genres importants de la musique noire. Et puis musique du monde avec Vox Sambu en première partie et Wesley le 18 février 2012. Un mélange de hip-hop, reggae, rap et folklore haïtien dans une ambiance festive et colorée de la musique du monde explosive à vous couper le souffle, nous dit-on, au cabaret Mylène, 5240 Avenue du Parc à Montréal. Et cela ne coûte que 20$. C'est à 19h30. Encore une fois, c'est prévu pour le 18 février prochain. Et puis, soirée gospel avec Sylvie Desgrosseillers et la chorale du Conservatoire de musique moderne, prévue pour le 25 février 2012. Au cabaret du 1001, toujours 5240 Avenue du Parc à Montréal. Cela ne coûte que 20$, c'est à 19h30. Pour tout savoir et pour plus d'informations, visitez le site www.fonduaunoir.ca. When this rhythm was born, everybody jump, alright, alright. When this rhythm Notre histoire canadienne fait de l'engagement communautaire une priorité. Le mois de l'histoire des Noirs, tout au long du mois de février 2012. Et oui, mesdames et messieurs, bienvenue à Popourri CUT 89.5 FM, et où que vous soyez à travers le monde, on vous souhaite le bonjour en direct du campus universitaire de Toronto. Imaginez un nouveau monde, c'est le thème retenu cette année pour célébrer la 24e édition du mois de l'histoire des Noirs, qui a lieu tout au long de l'année, du mois de février plutôt. Conférences, spectacles, expositions, rencontres littéraires et historiques et bien d'autres activités sont prévues à l'antenne, soyez des nôtres. L'objectif est de permettre au public de découvrir l'art, l'histoire et la culture des communautés noires partout au Canada, à Toronto, dans le monde. Et au Québec, justement, à Montréal, dans la programmation du mois de l'histoire des Noirs, on retrouve entre autres la série Fondue aux Noirs, présentée par la Fondation Fabienne Collat, que nous venons de vous présenter. Dans la région de Toronto, il y aura des ateliers de théâtre pour les jeunes de 6 à 12 ans. Venez compter et vous raconter avec nous. Un atelier animé par Jenny Laguerre et Martin David Peters. C'est présenté par le Théâtre français de Toronto en partenariat avec Unleash Legacies. Et c'est à leur façon, à eux, de célébrer le mois de l'histoire des Noirs et surtout de plonger les jeunes, les adolescents, les enfants dans le thème de cette année. Cela se déroulera le samedi 25 février de 10h à 11h30, le 25 février de 10h à 11h30 au studio du Théâtre français de Toronto, 21 Rue Collège, au 6e étage. Vous pouvez commander vos billets en téléphonant au 86-534-6604. Ou si vous êtes dans la grande région de Toronto, à l'extérieur de notre zone de diffusion, c'est le 1-800-819-4981. Ou allez sur le site du Théâtre français de Toronto, www.théâtrefrancais.com, pour tout savoir. Et puis, il va se passer une activité très intéressante, c'est... je pense la communauté en général, une façon pour eux de rendre hommage à Toto Bissinthe ou Marie-Clotilde Toto Bissinthe, une artiste du Cap haïtien, reconnue pour ses œuvres, ses chansons vaudou, mettant en valeur les traditions d'Haïti, les valeurs traditionnelles d'Haïti. Et sa fille Mylène Sandler sera présente et elle sera là pour rendre hommage à sa maman. Chant et poésie, l'histoire tout entière du peuple noir depuis la déportation d'Afrique. Le thème, nos différences ne doivent pas nous séparer, au contraire, elles doivent nous enrichir. C'est prévu le vendredi 24 février de 19h à 21h, toujours au studio du Théâtre français de Toronto, 21 rue Collège, au 6e étage. Pour tout savoir, www.théâtrefrancaisinternational.com. Pour tout savoir, vous allez sur le site du Théâtre français de Toronto. Théâtre français de Toronto, en partenariat avec Unleash Legacies, qui nous présente Marie-Clotilde Toto-Bissinthe, que nous entendrons tout à l'heure, sans doute, dans un petit instant.
L'histoire des Noirs est célébrée pendant un mois en Amérique du Nord. Si les prouesses de Martin Luther King ont joué un rôle dans cette initiative, ni en Afrique ni en Europe, on ne fête les Noirs. Alors qu'a donc cette culture de si spéciale? Pour le savoir, je vous propose d'entrer dans la danse avec nous. Allez, c'est parti, on y va là. Allez, on va. Le métissage des cultures est de mise dans les soirées où l'on danse et l'on mange africain. Pas de problème pour se retrouver autour d'une bonne assiette de yassa, plat typique sénégalais.
Je suis venue au Canada au début, j'étais étudiante, donc il y avait le contrat bilatéral avec mon université. Donc ça allait. Et puis après j'ai fait mon stage, j'ai préféré prolonger. Et après mon employeur m'a proposé de revenir.
Si cette rencontre multiculturelle est aujourd'hui possible, c'est en raison du caractère économique de l'immigration.
Il y a 700 000 postes qui sont à combler dans la région de Québec. En fait, les entreprises, elles sont de plus en plus en manque de main-d'œuvre. Ça, c'est vraiment un fait.
Que ce soit pour les étudiants comme pour les travailleurs, de nombreuses conditions sont à réunir avant de faire sa demande d'immigration.
Il faut prouver vraiment que tu as les moyens de vivre ici, de payer tes études, qui coûtent 5 fois plus cher que ceux qui étudient ici.
L'université Laval reste une destination prisée par les étudiants africains. professeur rwandais de 20 ans cherche à obtenir un permis de travail hors campus pour renflouer ses finances.
Les étudiants étrangers, plus d'entre nous, n'ont même pas de bourses, on est sur les charges de nos parents et tout ça. Donc il faut avoir un peu de revenus pour répondre à certaines choses.
Une fois le diplôme obtenu, il faut faire un choix. Rester au Canada ou rentrer au pays.
Je compte rentrer au Sénégal un jour ou l'autre. Je ne sais pas quand, mais je vais rentrer un jour ou l'autre, ça c'est sûr. Oui. Mais peut-être que je vais finir un master à pays, si travailler un petit peu, avoir un peu d'expérience professionnelle pour mieux servir mon pays. Oui.
Même qualifiés, les immigrants africains n'obtiennent souvent pas les postes désirés, faute d'équivalence de diplôme.
On a des gens qui sont partis de chez eux avec des diplômes d'ingénieur, mais qui, à cause des circonstances difficiles qu'ils rencontrent ici, se retrouvent en train d'être chauffeur taxi.
Au-delà de ces itinéraires semés d'embûches, ce qui restera toujours intact et propre à la diaspora noire, c'est son art, sa musique, sa haute couture.
Le mois de l'histoire des Noirs, une perspective au Québec, surtout les jeunes, les étudiants africains à l'Université Laval. Nous remercions beaucoup nos radiopartenaires de la région du Québec. Marie-Claude Toto-Bissainte, artiste du Cap haïtien, reconnue pour ses œuvres, ses chansons vaudou mettant en valeur les traditions d'Haïti à ne pas rater. C'est prévu pour le vendredi 24 février de 19h à 21h au studio du Théâtre français de Toronto. Différences ne doivent pas nous séparer, au contraire, elles doivent nous enrichir. À ne pas oublier, hommage à Toto-Bissainte avec la participation de Milena Sandler, la fille de Toto-Bissainte, et chant et poésie. Je pense que c'est une soirée mémorable qui vous attend, madame, monsieur. C'est prévu pour le vendredi 24 février de 19h à 21h. Pour tout savoir, vous allez sur le site du Théâtre français de Toronto, www.théâtrefrançaisenseignement.com. Théâtre français de Toronto, studio du Théâtre français de Toronto, est situé à 21 rue Collège, 6e étage, au coin des rues Collège et Yonge.
Depuis le tout début de l'histoire du Canada, les personnes d'origine africaine ont fait d'importantes contributions au développement de notre grand pays. Le 2e bataillon de construction a fièrement servi le Canada au cours de la Première Guerre mondiale. William Hall est devenu le premier marin canadien, le premier néo-écossais et le premier noir à recevoir la Croix de Victoria. Mary Ann Shad Carey a été la première femme d'origine africaine à publier un journal en Amérique du Nord. Les Afro-Canadiens ont laissé leur marque dans la musique, dans les sports, et continuent de contribuer à de nombreux aspects de la vie canadienne. Célébrons notre fier patrimoine. Célébrons le mois de l'histoire des Noirs. Un message du gouvernement du Canada.
From the roof up, CIUT 89.5 FM, Toronto, presenting the history and the evolution of sound for 25 years and counting. CIUT 89.5 FM, Toronto.
Magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale. Mesdames, Messieurs, CIT FM vous mène depuis quoi 25 ans maintenant dans des territoires méconnus encore de la part de beaucoup de nos auditeurs, mais aussi beaucoup de gens en général. Et nous remercions ici et nous rendons hommage à notre façon nos collaborateurs, nos correspondants d'ici à l'étranger, les bénévoles. Et aujourd'hui, nous avons le bonheur et la chance d'avoir le capitaine de Beura, Morgan Nacotte, et au microphone, Eric Cader. Nous sommes avec vous jusqu'à 13h. CIUT 89.5 FM, Toronto's best radio station. Ça fait 25 ans que ça dure et grâce à vous, nous sommes encore là. Le mois de l'histoire des Noirs met en évidence les luttes, les triomphes de millions de Canadiens face à de terribles obstacles de leur contribution à la vie culturelle et politique du Canada. Et justement, toujours les gens nous posent la question, mais ça c'est une affaire d'Américains, des Noirs américains, qu'est-ce que ça a à faire avec la francophonie et les Noirs? Ici dans la francophonie, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas d'obstacle, et tout va bien dans le beau monde. Alors je vais vous apprendre peut-être une petite nouvelle, vous avez entendu, d'ailleurs moi je suis de très près les élections présidentielles en France, il y a eu quelques dérapages encore une fois. On a essayé de comparer les civilisations, ça fait encore boule de neige, oui c'est le cas de le dire parce qu'il neige en France, mais aussi M. Guéant n'a pas été très bien accueilli par les Martiniquais cette semaine, et pourquoi? Il se pose des questions. Comment peut-on être noir et français? Alors, une longue histoire culturelle et sociale, oui, c'est une émission proposée par Valérie Nivelon du magazine de la Marche du Monde que vous allez entendre régulièrement à cette antenne dans le cadre de notre renouvellement de nos partenariats avec RFI et nos radios partenaires. Après Noir et Français, une longue histoire politique, RFI vous propose cette semaine, aujourd'hui, Noir et Français, une longue histoire culturelle et sociale. La lutte pour les droits civiques des Noirs de France est politique, mais aussi culturelle. Et oui, entre deux guerres, un bouillonnement intellectuel et artistique sans précédent secoue le tout Paris. Joséphine Baker, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor œuvrent pour la reconnaissance des valeurs d'une culture noire. Une pierre posée dans le jardin identitaire des Noirs de France, car si la question de l'égalité perdure, la jeune génération s'interroge sur son identité et son histoire. Parmi les invités, Sylvie Chalet et Françoise Vergès, co-auteurs de l'ouvrage « La France Noire », dirigé par Pascal Blanchard aux éditions La Découverte. Je vous souhaite un bon voyage et revenez-nous juste après. La marche du monde.
Nous sommes là pour dire et pour réclamer, donner la parole au peuple noir, laisser entrer les peuples noirs sur la grande scène de l'histoire.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
Nous sommes en 1956. L'empire colonial français s'effondre et les Noirs prennent leur destin en main. Laisser entrer les peuples noirs sur la grande scène de l'histoire, déclare Alioune Diop, fondateur de la revue Présence africaine. Alioune Diop est une des grandes figures intellectuelles de la pensée noire. Il a su cristalliser une prise de conscience et a su faire de Présence africaine une revue ouverte à tous les hommes de bonne volonté. Ce sont ses mots. C'est donc naturellement qu'on le retrouve dans le film documentaire signé Pascal Blanchard et Juan Gelas, intitulé Noir de France. Ce film, bientôt diffusé sur France 5, et un très beau livre intitulé La France Noire, déjà paru aux éditions La Découverte, retrace en effet trois siècles de présence noire en France. C'est une première, et c'est tout de suite sur le film. Nous avons évoqué la semaine dernière la longue histoire politique des Noirs de France, une édition de La Marche du Monde que vous pouvez réécouter sur rfi.fr, que vous pouvez podcaster, une histoire à laquelle se mêle intrinsèquement une histoire culturelle et sociale. Sylvie Chalet et Françoise Vergès, vous avez tous les deux participé à ce livre La France Noire. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour. Et vous êtes respectivement Sylvie Chalet, historienne de théâtre africain et de la diaspora africaine, et Françoise Vergès, présidente du comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage.
Oui, je sais que le mot n'est pas très bon, mais on n'en a pas trouvé d'autre. En tout cas, il dit juste ce qu'il veut dire. C'est un mouvement littéraire et qui s'est donné pour but d'exprimer les problèmes de l'homme noir et sur la base d'une prise de conscience par celui-ci de sa propre et de sa véritable condition.
Définition du mot négritude par Aimé Césaire. Françoise Vergès, ce long combat des Noirs de France pour devenir des Français à part entière, selon l'expression de Césaire que l'on vient d'entendre, est un combat politique mené par des intellectuels très engagés. Alors est-ce que ça c'est une spécificité de cette histoire? Parce que la semaine dernière on a parlé des grandes figures politiques, mais ce qui est frappant c'est que ces grandes figures politiques sont bien souvent au départ des grandes figures intellectuelles.
Oui, il y a une grande relation entre se demander qui suis-je et l'action qui en résulte. Parce que le qui suis-je que se posent les femmes et les hommes noirs est lié à la condition qu'on leur avait faite. On leur avait dit, enfin le système colonial, esclavagiste, et ensuite, après, leur disait, vous n'êtes rien, vous êtes des êtres inférieurs, vous n'avez pas d'histoire. Et donc, se poser cette question de d'où je viens et qui suis-je entraîne inévitablement pour ces hommes et ces femmes qui étaient très souvent des écrivains, des poètes, ou des peintres, ou des artistes, une action politique. La culture, en fait, c'est se poser la question, quel monde je vais construire? Ce n'est pas simplement se dire quelle forme culturelle je vais adopter, c'est la culture, ça concerne aussi tout le monde social dans lequel on évolue.
Sylvie, j'ai les mêmes interrogations en ce qui concerne le monde artistique et je pense notamment à cette période bouillonnante de l'entre-deux-guerres des années 20, et ça se passe pas seulement à Paris, ça se passe aussi à Harlem aux États-Unis par exemple, dans ce quartier de New York. Les artistes à ce moment-là sont-ils en quelque sorte à l'avant-garde de ce qui deviendra le combat des Noirs pour leurs droits?
Alors, les artistes africains ou antillais dans les années 30 sont encore des artistes qui cherchent une place et qui souvent sont invités à participer finalement à des créations qui sont des créations d'avant-garde. L'important, c'est pour eux peut-être d'abord de conquérir un espace pour ensuite pouvoir prendre la parole. Tout à l'heure, on entendait Alon Diop parlant de la grande scène de l'histoire. Là, on est sur la petite scène, on va dire la scène du musical ou la scène du théâtre, mais des créateurs dans les années 30, donc dans cet entre-deux-guerres, comme donc des hommes de théâtre qui ont vraiment marqué l'histoire du théâtre, comme Gaston Bâti, par exemple, ou Firmin Génier, ils ont bien conscience que, en fait, l'histoire de la France se fait avec ses colonies et que ce qu'on appelle à l'époque les exotiques ou les sujets, coloniaux, doivent participer à la création artistique. Alors, évidemment, ils ont une présence qui est quand même un peu exotique, on va dire, surtout pour les spectateurs de l'époque.
Mais on pense notamment à la Revue Nègre, évidemment, voilà, avec alors, Joséphine Becker.
La Revue Nègre, c'est un projet en fait de créer un spectacle qui va être une espèce d'incarnation qui serait une Afrique sauvage complètement inventée. Mais on va chercher effectivement à Harlem donc des danseurs dont seront partis à l'époque donc Joséphine Becker, qui n'est pas du tout connue, mais qui est absolument donc une artiste secondaire. C'est Paris qui va tout d'un coup lui donner l'ampleur qu'on connaîtra. Mais à ce moment-là, Joséphine Becker donc participe effectivement d'une action donc d'avant-garde, comme Habib Benglia par exemple quand il va travailler avec Gaston Bâti ou Firmin Génier. Simplement, à l'époque, ils sont quand même encore dans une situation d'aliénation, il faut bien le dire, tout en ayant bien conscience qu'ils ne sont absolument pas dans un espace où ils peuvent avoir la parole, mais où cet espace leur permettra ensuite de prendre la parole. Et on sait bien l'histoire de Joséphine Becker qui ira très loin dans son engagement politique par la suite.
On a eu l'occasion d'ailleurs d'en parler dans la Marche du Monde. En avant-première, aujourd'hui, tu as fait des extraits de la série documentaire signée Pascal Blanchard et Juan Zelas, intitulée Noir de France, une histoire culturelle et sociale. Écoutez le témoignage de Jean-Claude Chicaya, porte-parole de l'association Devoir de mémoire.
Mes grands-parents arrivent en France dans les années 30. Ma grand-mère vient faire des ménages en France. Et mon grand-père paternel travaille à Citroën. Là, il travaillait jusqu'à la fin de ses jours en rêvant jusqu'à la retraite de pouvoir repartir vers Tartane et la Martinique. Il rentre malheureusement à l'hôpital dû aux dures conditions d'ouvrier à la chaîne chez Citroën et ailleurs. Il rentre à l'hôpital juste avant sa retraite et il ne ressort pas de l'hôpital vivant. Et beaucoup d'ouvriers malheureusement ont eu ce sort extraordinairement dur. Et je pense que c'est, je le dis là et avec beaucoup d'émotion, je pense que c'est un moment important dans ma prise de conscience politique de la justice sociale et de la lutte des classes.
Alors avec la crise économique de 29, ça devient particulièrement difficile pour les travailleurs en général et pour les travailleurs noirs en particulier, sans oublier qu'avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne, les années 30 vont être marquées par ce discours de supériorité d'une race sur une autre. En l'occurrence, les Noirs, ils l'ont déjà compris, sont désignés comme la race inférieure. Alors c'est dans ce contexte aussi international, Françoise Vergès, que Césaire Senghor définissent en fait la négritude. C'est leur façon à eux, d'une certaine façon, de répondre à cette attaque racialiste.
Ils répondent à ce discours sur la pureté de la race et sur la hiérarchie des races. N'oublions pas aussi que l'Europe a longtemps eu peur non seulement des Noirs, mais aussi du métissage. N'oublions pas que Napoléon, au moment où il rétablit l'esclavage, il interdit aussi aux gens de couleur de pénétrer sur le sol français. Il y a toute une série ensuite dans le monde colonial aussi de mesures prises contre le métissage. Donc quelque chose est interdit du mélange. Le peuple français devrait rester pur. Alors évidemment, le métis déjà fait peur et le noir fait encore plus peur. Et ce que Senghor, Césaire et d'autres vont dire, puisqu'ils vont rencontrer aussi des auteurs, des écrivains de la Harlem Renaissance à Paris, qui sont là dans les années 20-30, et puis ils rencontrent aussi des gens des autres Caraïbes, pas seulement les Caraïbes françaises. Donc cette émergence d'un sentiment aussi transnational, transcontinental de qu'est-ce que c'est qu'être noir. Et donc, pour Césaire, la négritude, c'est cela. C'est nous sommes issus d'une histoire qui, à la fois, est douloureuse, mais qui donne lieu à une présence africaine au monde et dans le monde.
Donc, on a vu, évidemment, la semaine dernière, à quel point ces idées étaient portées par les politiques, surtout quand le politique et l'intellectuel sont une même personne. C'est le cas de Césaire. En 1945, à la faveur des élections législatives de 1945, avec 60 autres députés anti-africains, il entre au Parlement français et demande la départementalisation pour la Martinique, la plus vieille des colonies. Donc son projet, c'est l'égalité au sein de la France.
Ce qui est très intéressant, c'est de relire en fait les débats de l'époque, les débats dans la commission de décolonisation, on pourrait dire. D'un côté, vous avez les Africains qui demandent la séparation, et puis il y a le projet de l'Union française. Et de l'autre côté, donc Césaire, avec les députés de la Guyane, de la Guadeloupe et de la Réunion, demande la départementalisation.
Pourquoi ?
Alors, c'est intéressant justement de voir ce débat, parce que ceux qui sont pour les indépendances ne trouvent pas cela insensé qu'il y ait cette demande. Alors, ce qui est recherché, c'est vraiment l'égalité et la fraternité. Césaire dit, après la liberté donnée en 1848, nous demandons aujourd'hui l'égalité et la vraie fraternité, et non plus le grand frère et le petit frère, nous étant les petits frères. Je pense, enfin moi mon hypothèse, c'est qu'en fait, ce sont des terres qui ont connu l'esclavage.
Mm-hmm.
Et en cela, c'est particulier, ça apporte une différence par rapport aux terres qui sont connues la colonisation post-esclavagiste. L'esclavage, c'est vraiment le déni de toute humanité, le déni de toute égalité. Et je pense que le 46 est plus proche, si on pouvait historiquement faire une comparaison, du mouvement des droits civiques aux États-Unis, de la demande de la pleine application de la Constitution de la pleine, application des principes républicains qui fonderaient cette idée de la République, que dans une demande de séparation. Il serait intéressant d'ailleurs de voir en France pourquoi nous n'avons pas eu de Marcus Garvey, pourquoi nous n'avons pas eu de demande séparatiste. En France, le mouvement noir intellectuel est resté plutôt dans cette mouvance, on pourrait dire, entre Blaise Diagne, l'assimilation.
Donc le premier député africain.
Le député africain. Entre une demande d'intégration et ce qu'apporte Césaire d'une affirmation d'une différence culturelle et historique.
Après la Seconde Guerre mondiale, Paris devient un capital de la nuit, musique de jazz et cinéma. Un groupe de jeunes Africains tourne Afrique sur scène.
Il fallait grandir, quitter le pays, pour Paris, capitale du monde, capitale de l'Afrique noire. Ici, la brume a remplacé le soleil. Les clés des machines et ceux des hommes de la nature. Mais Paris est le centre des espoirs, de tous les espoirs. Paris des jours sans pain, Paris des jours sans espoir, Paris de la solitude, compensée par la fraternité éternelle.
Oui, salut. Comment, pour leur part, les artistes donc noirs à Paris évoluent? Vous parliez tout à l'heure de leur position mineure, en quelque sorte, un peu invisible, hein, entre la Première Guerre mondiale et la Seconde. Là, nous sommes après-guerre. Est-ce qu'ils sont plus visibles? Est-ce qu'ils occupent plus le terrain? Comment se situent-ils à ce moment-là?
En fait, en 56, il y a d'emblée la volonté d'accompagner également donc les intellectuels du côté des artistes de la scène et la création donc d'une véritable épopée, hein, qui va marquer énormément les esprits. Tous les artistes africains antillais aujourd'hui se remémorent cette histoire. C'est l'histoire des griots avec donc une aventure qui démarre à la Sorbonne et la volonté de créer tout simplement un groupe de théâtre amateur dans un premier temps, dans lequel passera plus d'une quarantaine de comédiens qu'on connaît connaît aujourd'hui et qui ont marqué finalement l'histoire du théâtre afro-antillais.
Des noms.
Alors Robert Liensol, bien sûr, Toto Vicente, Sarah Maldoror, Jenny Alpha, qui est alors toute jeune. Et puis Idiaye Wandie, par exemple, qui est toute jeune également. Et bien sûr Darlene Legitimus. Alors Darlene Legitimus, qui a 16 ans quand elle danse en fait avec Josephine Baker à ses côtés, enfin vraisemblablement donc elle était dans les choristes, et on va ensuite la retrouver effectivement dans ces années-là avec les griots. Alors, l'événement des griots, c'est à la fois de monter dans un premier temps des pièces comme par exemple le Don Juan de Pouchkin, monté par Roger Blin, et puis il y aura aussi bien sûr Sartre qui va écrire pour des acteurs comme Habib Benguia, donc tout de suite après la guerre, avec La Putain Respectueuse. Et du coup, Huit Clos est monté également par cette compagnie des griots, dont Robert Liensol prendra la direction.
56, décidément une grande date dans l'histoire des Noirs de France. Alun Diop organise le premier congrès des artistes noirs à la Sorbonne, Aimé Césaire, Franz Fanon, Joséphine Baker, Alun Diop, je viens de le citer, Amadou Mbateba. Et j'en passe, sont là, ils parlent et ils débattent de tous les sujets, racisme, colonialisme et indépendance.
À la Sorbonne, dans un amphithéâtre de la Faculté des Lettres, s'est déroulé le premier congrès des écrivains et artistes noirs organisé sous l'égide de la revue Présence africaine.
Il fallait montrer un autre visage. C'était leur mission, en quelque sorte. Il fallait montrer que nous étions aussi capables que les autres. Et c'était très sérieux à cette époque-là. Aujourd'hui, on parle d'identité, de ceci, cela. Mais déjà, à cette époque, nous parlions de ça. On doutait de l'intelligence, je dis bien, de l'importance de ces écrivains, de ces intellectuels, de ces hommes noirs, de pouvoir tenir dans un endroit aussi prestigieux que la Sorbonne, un congrès. Donc c'est seulement le lendemain qu'on a eu l'autorisation de tenir le congrès à la Sorbonne. Donc déjà en haut lieu, les Noirs, la présence des Noirs n'était pas aussi évidente.
Yande Christiane Diop, donc épouse et militante aux côtés de Alun Diop, bien évidemment. Sylvie Chalet, comment aujourd'hui faut-il s'imaginer la création donc de Présence africaine et de ce que ça peut représenter? C'est beaucoup plus qu'une revue.
Bien sûr, puisque c'est en même temps un espace véritablement de problématisation de la question noire. C'est-à-dire qu'on commence vraiment à se poser, par exemple, la question de la représentation, de l'image, et pas seulement en étant donc du côté de la description, mais en essayant vraiment de déconstruire, au contraire, donc ces images. On pense, par exemple, aujourd'hui, ça devient emblématique, le discours qu'on peut tenir, par exemple, sur une affiche comme celle de Banania, qui à l'époque deviendra emblématique, notamment pour Césaire, comme image justement de l'aberration coloniale. Dans Présence africaine, il y a des articles qui déconstruisent ces images, il y a donc des intellectuels qui se retrouvent autour de ces questions-là.
Des intellectuels de toute confession, cette volonté d'ouverture, de tolérance, de brassage, est-ce qu'il est réel? Vous êtes historienne, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est un mythe sur Présence africaine?
Bon, je ne suis pas spécialiste de Présence africaine en particulier, mais je pense que c'est tout à fait réel. Bon, après, la difficulté, c'est que ça reste une revue, ça reste un espace donc élitiste, d'intellectuel. Il faut bien imaginer que ça ne touche pas forcément de manière directement populaire les gens. Ça reste quand même encore une revue et ça n'a pas la force, évidemment, d'un média comme la radio ou ce qui vient à la télévision.
Françoise Vergès, est-ce que réellement cette volonté d'ouverture et de tolérance qui était celle du fondateur d'Alun Diop, elle est présente, c'est le cas de dire, dans Présence africaine?
Elle l'est, oui, elle l'est. Mais ils sont confrontés, vous parliez de 56, voyons aussi tout le contexte général, c'est aussi l'époque des indépendances africaines, la guerre d'Algérie qui a commencé, et qui va mettre aussi beaucoup d'intellectuels et d'artistes face à des questions plus profondes. À la question noire s'ajoute la question de l'anticolonialisme et de l'anti-impérialisme beaucoup plus fortement. Donc, d'une part, Madame Diop disait qu'il fallait montrer que nous étions capables, aussi capables d'eux, mais là, pour une génération qui arrive, c'est même plus être capable d'eux, c'est se constituer autrement et ailleurs. Ce qu'on voit notamment dans le chapitre sur la culture nationale, dans les damnés de la terre de Franz Fanon. Et là, c'est se constituer autrement, se constituer en dehors, et non pas montrer que nous sommes aussi capables qu'eux. Ça provoque là des débats qui d'ailleurs apparaissent en présence africaine, qui seront là présents lors du deuxième congrès des intellectuels et des artistes noirs. Et donc il y a aussi tout ce contexte, je pense, qu'il faut observer, et aussi les premières vagues d'immigration en France, c'est-à-dire le nombre de travailleurs venant de pays anciennement colonies françaises, que ce soit d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique d'île du Nord, va aussi augmenter. Donc il va y avoir des déplacements socio-économiques qui vont avoir une influence aussi sur la manière de poser les questions dans la musique, le cinéma et dans la littérature.
Dans les cabarets de soir, les hommes noirs rencontrent les femmes blanches qui parfois leur donnent leur chance. Au son de la trompette de Boris Vian et de la gouaille d'Henri Salvador, au son d'une toute nouvelle musique, le rock'n'roll.
Bienvenue,
vous êtes sur la chaîne juste après les infos. Nous retrouvons nos deux invités, Sylvie Chalé et Françoise Vergès, deux des auteurs de La France Noire aux éditions La Découverte.
Et dans un plat, rien que pour moi, qui a préparé pas trop à ses années, je lâche et bonne, ça va se comporter.
Je vous parle d'un monde qui n'existe pas, un monde où les frontières ne diviseraient pas la moindre différence comme ultime richesse. Sans barrière, sans bannière, inutile forteresse. Partager le même soleil, s'éveiller sous le même arc-en-ciel, espérer la même lumière, redessiner d'autres frontières. Je vous parle d'un monde qu'il nous faudra construire. Autant d'hommes avant nous en rêve de bâtir un chantier d'utopie où combat une vie. Les ténèbres ou l'amour, c'est à nous de choisir. Partager le même soleil, éveiller le même arc-en-ciel, espérer la même lumière, redessiner d'autres frontières. Où sont les différences dans le cœur des enfants, de la part ou d'ailleurs, hier ou maintenant, l'entrée de mon rang, de mon sang c'est un fait. Il y a aucune ligne sur la terre.
C'est 89.5 FM avec vous jusqu'à 13h sur www.cic.fm.
Together we spent
nouvel album de Boudabar, en direct from Paris. And we say hello to all our friends listening to us in Germany. On a reçu des cartes, on a reçu des courriels de Montréal aussi, de l'île Maurice, de La Réunion, de Martinique. Enfin, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là. Je rappelle que le Consulat Général de France à Toronto et l'Institut Français participent à l'organisation par la Peace Bell Lighthouse, Lightbox, d'une rétrospective intégrale de l'œuvre de Robert Bresson, qui dure, ben ça a déjà démarré le 9 février et se poursuit jusqu'au 18 mars. Et donc on dit bien le bonjour à Lorraine Meyer-Galland, qui est nouvelle attachée de presse au Consulat Général de France, qui sera des nôtres très prochainement. On va se rencontrer aussi sans doute. Alors je vous rappelle que Robert Bresson, c'est l'un des réalisateurs français de l'après-guerre les plus vénérés. Ses récits d'une beauté rigoureuse ont exercé une grande influence sur le cinéma mondial de ces 50 dernières années. Et parmi ses réalisations notables, la figure Pickpocket au Hasard Balthazar, ou encore Un condamné à mort s'est échappé, primé Festival de Cannes en 1957. Alors je vous rappelle que tout au long de cette programmation assez spectaculaire, vous allez pouvoir apprécier quelques-unes de ses œuvres. Et entre autres, ici, on vous donne ce qu'il vous reste. Par exemple, le jeudi 16 février à 18h30, Les Anges du Péché, c'est un film tourné en 1943, et un autre film qui pourrait vous intéresser, Les Dames du Bois de Boulogne, c'est prévu pour le 20 février à 18h30, et le mardi 6 mars à 21h, et le 23 février à 18h30, et lundi 5 mars à 18h30, au Hasard Balthazar, un film tourné en 1966. Le 26 février à 17h et jeudi 1er mars à 18h, Le procès de Jeanne d'Arc, un film réalisé en 1962. Et le 2 mars à 18h, Le diable probablement, un film réalisé en 1977. Et enfin, dimanche 4 mars à 17h et jeudi 15 mars à 18h30, Une femme douce. Et c'est un film qui a été réalisé en 1969. Et puis on termine en beauté le samedi 17 mars à 16h et dimanche à 18 mars à 16h45. Le film s'intitule L'Argent, un film réalisé en 1983. Merci encore à Lorraine Meyer-Galland. Vous pouvez aller d'ailleurs sur le site du Consulat Général de France à Toronto, www.consulfrance-toronto.org. Et là, vous aurez tous les détails où vous m'envoyez un message en semaine, cette semaine, et on vous enverra la programmation détaillée au pot.pourri@simpatico.ca. Pour Pourri, vous souhaite un bon brunch.
Vous écoutez Pot Pourri, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde, sur la bande CUT 89.7 FM. Une émission réalisée en partenariat avec Radio France Internationale, le département d'études françaises, l'Université de Toronto et l'Alliance française de Toronto. Pot Pourri, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde.
From the roof up, CIUC 89.5 FM, Toronto.
Et oui, mesdames, messieurs, encore une fois, bienvenue à Pot Pourri CUT 89.5 FM. Vous pouvez toujours vous inscrire, c'est gratuit, sur notre site, page Facebook, c'est facebook.com/potpourrishow en un seul mot, et devenez membre, vous pourrez comme ça recevoir les coups de cœur de l'émission, mais aussi échanger, entrer en interaction avec d'autres amis de la radio d'ici et ailleurs. Ne pas oublier, après les nouvelles, nous allons à notre façon faire un petit clin d'œil à un groupe, je trouve, qui est très animé en France et très connu aussi à quelques mois de l'élection présidentielle française. Le groupe ZEDA occupe à nouveau la tribune et reprend le combat politique. Second tour dans le cadre des nouveautés de la chanson française, retour à la tête, à la fête plutôt, et à la politique. Nouvel album du groupe ZEDA. Second tour, le point de l'actualité internationale et française. Nous écoutons Radio France Internationale. RFI Afrique. Anne Souhaitement.
Bonjour à tous, au sommaire de cette édition, la troisième place de la CAN pour les Maliens. Ils ont battu hier le Ghana dans la petite finale. Mais le match que tout le monde attend, c'est Côte d'Ivoire-Zambie. Et c'est ce soir, finale inédite, à suivre à partir de 19h10, en temps universel sur notre antenne. On y revient dans quelques instants. Ils sont autour de 100 000 en Afrique, un phénomène qui perdure, par exemple en RDC. Journée internationale des enfants soldats ce dimanche, état des lieux sur le continent dans ce journal. Le reportage de notre envoyé spécial dans l'un des villages les plus touchés par les affrontements entre Mourlet et Lounouer au Soudan du Sud fin décembre. Et puis Saadi Kadhafi est détruit par la drogue et l'alcool. Réaction du CNT après les déclarations du fils de Muammar Kadhafi, réfugié au Niger. Celui-ci s'est dit prêt à rentrer au pays pour mener une contre-révolution. Le CNT réclame toujours son extradition. Jour J, après trois semaines de compétition, la CAN se termine ce soir, Zambie-Côte d'Ivoire, c'est à 19h30 en temps universel. 20 ans que les éléphants ivoiriens n'ont pas remporté le titre et moins d'un an après une crise post-électorale qui a fait au moins 3000 morts, la victoire ce soir serait un beau signal. Maureen Grisot à Abidjan.
Finale de la 28e édition de la Coupe d'Afrique.
Le journal de la télévision nationale en parle dans toutes ses éditions. Le président Alassane Ouattara sera même dans les tribunes au Gabon pour encourager son équipe. La finale de la CAN est dans tous les esprits. Pour beaucoup de commerçants, une victoire des éléphants fera dépenser de l'argent aux clients.
Quand le Côte d'Ivoire gagne, l'argent viendra ici. Nous, étrangers maliens, on va trouver l'argent à cause du sale.
Des dépenses qui ont déjà commencé. Au grand marché d'Adjamé à Abidjan, tous se bousculent pour acheter maillots ou perruques aux couleurs de l'équipe nationale. Une équipe dont la cohésion est désormais érigée en modèle.
C'est une équipe d'union. Comme ça, ça me fait vraiment ça me voit droit au cœur. C'est les enfants du Nord, les enfants de l'Ouest, les enfants du Sud sont ensemble sans qu'un jeu de la finale là-bas. Nous les Ivoiriens, on doit les regarder pour prendre l'exemple sur eux.
La société ivoirienne est encore profondément divisée après la guerre civile. Tous voient dans la victoire un espoir de paix.
Nous avons mis sous pied le comité dialogue vérité qui est en train de faire son travail. Et dans les quartiers, nous aussi, nous sommes en train de convaincre les uns les autres à se pardonner pour pouvoir se réconcilier. La victoire des éléphants viendra pour compléter ce pas que nous sommes en train de faire.
Maureen Grisot, Abidjan, RFI. Voilà, donc match à suivre sur nos antennes africaines et parisiennes à partir de 19h10 TU, coup d'envoi 19h30. Hier, le Mali a remporté la petite finale en battant le Ghana 2-0. Toutes les infos après cette édition dans le journal de la CAN, évidemment. Il est 4h33 à Paris. Nous sommes le 12 février. C'est la journée internationale des enfants soldats. Leur nombre baisse dans certains pays, mais augmente ailleurs. Les Nations Unies comptabilisent 250 000 à 300 000 enfants associés au conflit armé à travers le monde, dont un tiers sur le continent africain. Ils sont utilisés comme des combattants, des porteurs, des cuisiniers et t'as des luxes avec Charlotte Hidrac.
La liste de la honte établie par l'ONU en 2008 pour dénoncer les responsables de l'utilisation d'enfants soldats évolue. C'est le cas par exemple du Tchad. Selon l'UNICEF, les forces armées tchadiennes n'ont pas recruté de mineurs en 2011. L'organisation parle d'un signe positif. Espoir aussi en République centrafricaine. Un plan de libération d'enfants soldats a été signé en fin d'année dernière par différents groupes d'ex-rebelles. Une avancée, même si un programme durable de démobilisation et de réintégration doit encore être mis en place. Mais la Centrafrique, comme le Sud-Soudan et la République démocratique du Congo, reste fragilisée par la LRA, la rébellion ougandaise, qui continue de recruter massivement des mineurs, notamment par le biais d'enlèvements. Pas d'amélioration non plus dans l'est de la RDC, dans les Kivu. D'après l'UNICEF, 9 parties au conflit utilisent des mineurs qui sont parfois démobilisés puis recrutés par d'autres factions. Et puis tableau très sombre aussi en Somalie, où le phénomène s'est répandu en 2011 du côté des islamistes Sheba, mais aussi du gouvernement fédéral de transition. Les autorités se sont certes engagées à mettre fin à cette pratique au sein des forces armées, mais pour l'instant sans aucune mesure concrète.
Les négociations entre Soudan du Sud et Soudan se poursuivent à Addis Abeba sur le dossier épineux du pétrole. Elles doivent se terminer mercredi. Vendredi, je vous le rappelle, Juba et Khartoum ont signé un pacte de non-agression. L'annonce d'un porte-parole militaire soudanais, il affirme que les rebelles ont subi, je cite, de lourdes pertes lors de combats dans la région du Nil Bleu. Le porte-parole de la branche nord du mouvement populaire de libération du Soudan affirme, lui, que les 6 Soudanais qu'il détient sont des ingénieurs travaillant pour un groupe de Chinois libérés il y a quelques jours et non des agents de sécurité comme ils l'avaient soupçonné. Ils se portent bien, le groupe se dit prêt à les libérer. Situation précaire dans l'état de Dongley au Soudan du Sud. Les affrontements intercommunautaires qui ont explosé fin décembre se poursuivent. Ils opposent les Mourlés aux Nounouers, ce n'est pas nouveau, mais les attaques n'avaient jamais été d'une telle ampleur. Exemple à Likwangolé, à 30 km au nord de la ville de Pibor, l'un des villages qui a le plus souffert des destructions. Stéphanie Braquet.
C'est écrit ici, les Mourlés ne nous oublieront pas.
William Ball, l'administrateur adjoint du Payam, village, lit les graffitis qui habillent les murs de l'école primaire, partiellement brûlés et entièrement finis. Le 23 décembre, 6 à 8 000 Lounouers sont arrivés aux alentours de Likwangolé. Le 27, ils ont tout détruit sur leur passage et pris le temps d'écrire ces messages de haine.
Les loups noirs continueront à anéantir tout ce qui appartient aux Mourlés. Les écoles, les maisons, c'est ce qui est écrit. Toute ma famille a été tuée et ça me fait mal de dire ça. Ça n'a pas de sens.
Selon de nombreux témoins interrogés, les combattants détenaient quasiment tous des armes à feu. Certains étaient même vêtus d'uniformes de l'armée ou de la police sud-soudanaise. Les sources concordantes affirment également que le groupe rebelle de George Hathor, créé en décembre, leur a fourni des armes. La diaspora lounouère aux États-Unis aurait également contribué pour plusieurs dizaines de milliers de dollars.
Beaucoup d'entre eux utilisent l'anglais. Pour moi, ça veut dire qu'ils sont éduqués et qu'ils sont aussi bien armés. Le chef de cette armée blanche utilise des téléphones satellitaires.
Le 28 décembre, le vice-président Riek Machar s'est rendu à Likwangolé pour supplier les colonnes de combattants de rebrousser chemin. Le 30 décembre, au matin, le vice-président se réveillait dans une ville vide pour constater que l'armée blanche, comme il se désigne, sourde à ses injonctions, se dirigeait vers Pibor, tuant femmes et enfants et volant des dizaines de milliers de têtes de bétail. Stéphanie Braqueuil, Likwangolé, RFI.
En RDC, les suites de l'interpellation du numéro 2 de l'UDPS à l'aéroport de Kinshasa, c'était mardi dernier. Selon le porte-parole du gouvernement, Jacqueline Chabani aurait des informations. Elle pourrait intéresser la justice congolaise. Problème, il n'a pour le moment pas répondu aux questions de l'Agence nationale de renseignement. Kamanda Wakamanda Muzembe.
Il était attendu à l'Agence nationale des renseignements vendredi à la mi-journée, mais Jacqueline Chabani a brillé par son absence. Le secrétaire général de l'UDPS devait répondre par écrit aux questions qui lui ont été posées par les services de renseignement, des questions en rapport avec son interpellation mardi soir à l'aéroport de Kinshasa lorsqu'il a été débarqué de l'avion qui devait le conduire en Europe. Ce samedi, le ministre de la Communication et des Médias s'est confié à la presse à ce sujet, Lambert Mendeo Malanga.
Il s'agit d'une compilation de photos extrêmement atroces, 127 à peu près, sans légende, dans lesquelles il est simplement mentionné massacres d'innocents congolais qui ont commencé bien avant les élections.
Selon Lambert Mendeo, d'autres informations portent sur la fée militaire.
Il y a effectivement un message adressé à M. Chabani et on lui indique effectivement que quelqu'un que l'on appelle chef d'état-major serait prêt à aider l'UDPS à, entre guillemets, sauver le pays.
J'ai au téléphone Albert Moleka, porte-parole de Ken Tshisekedi, président de l'UDPS, s'est réservé pour le moment de tout commentaire sur cette affaire. Jacqueline Chabani, qui aurait été passé à tabac par les services de sécurité, est hospitalisé à Kinshasa depuis vendredi. Il souffrirait de maux de tête et devrait subir des examens approfondis. Kamanda ou Kamanda Muzembe, Kinshasa RFI.
Au Mali, toujours des affrontements entre rebelles Touareg du MNLA et des militaires. Les opérations se concentrent dans le nord-est autour de la ville de Tessalit. L'armée a par ailleurs repris le contrôle de la ville de Léré qu'elle avait quittée il y a une dizaine de jours. Fureur des autorités libyennes et Niamey qui est embarrassée après les propos du fils de Muammar Kadhafi hier sur la chaîne Al Arabiya. Saadi Kadhafi, réfugié au Niger, se disait prêt à revenir dans son pays pour prendre la tête d'une contre-révolution. Le gouvernement nigérien a présenté ses excuses aux autorités de transition libyenne. À Tripoli, le directeur administratif du CNT tente de minimiser l'influence de Saadi Kadhafi et réclame à nouveau son extradition.
C'est un personnage complètement détruit par la drogue et l'alcool, etc. Je ne pense pas que c'est une personnalité qui peut gérer une situation politique ou militaire. C'est tout simplement un malade qui ne sait pas quoi faire, qui commence à parler tout simplement. C'est quelqu'un qui a un mandat d'arrêt contre lui, c'est quelqu'un qui a participé dans des assassinats. Donc c'est tout à fait naturel que si, bien sûr, nous on demande l'extradition. Nous sommes prêts à faire face contre n'importe quel soulèvement, c'est-à-dire s'il y a des gens qui prépare un soulèvement contre-révolution. Nous avons tous les gens qui sont toujours armés, c'est que quelqu'un essaie de mettre des ordres dans le pays. Nous avons tous les conseils militaires, ils ont déjà préparé un plan, ils ont déjà préparé tout pour défendre en fait notre pays face à n'importe quel soulèvement, notamment militaire, ou des actions terroristes quelconques.
Osman Ben Sassi, le directeur administratif du CNT, joint par Olivier Roger. La colère au Tchad des populations de Loukchari. Jeudi dernier, le gouvernement et la compagnie chinoise qui exploite la raffinerie de Djarmaya ont signé un accord et met fin à la crise qui les opposait, mais bien cet accord ne satisfait pas du tout les habitants. Madi Asranako.
Lorsqu'il parle du pétrole de Koudaloua, le puits qui alimente la raffinerie de Djarmaya, exploité en joint venture par l'État tchadien et une compagnie chinoise, les originaires du Loukchari expriment une colère à peine dissimulée. Saïd Diom est le vice-président du collectif des associations de développement du Loukchari.
Le pétrole n'a pas du tout profité au Loukchari ni dans la région du Chari Bagrini. On a perdu tous les emplois qui devraient revenir à la main-d'œuvre locale. La compensation communautaire, on ne la voit même pas. La quantité autrefois nombreuse n'existe plus. Les carrières par-ci par-là ne sont pas comblées.
Depuis que la raffinerie a commencé à produire, même les ristournes qui devaient servir au développement de la région ne sont pas arrivées.
Les bâtiments extérieurs n'existent plus. Les quelques rares qui existent datent de la période coloniale. Il n'y a pas d'hôpital et les élèves continuent toujours à fréquenter dans les vieux bâtiments. Ça nous inquiète parce que déjà le pétrole est en train de couler depuis 7 mois. Mais dans la gestion du pétrole, les 5% reviennent à la zone pauvreté pour son développement. Et la zone prévision ne connaît même pas ce qui est en train de se faire exactement.
Plusieurs membres du gouvernement contactés par RFI répondent que la région n'a pas été oubliée au cours des négociations. Très rapidement, le Chari Bagrini qui fournit le pétrole à la raffinerie de Djarmaya commencera à entrer dans ses droits, assure-t-il. Madia Franako, Ndjamena, RFI.
Il est d'ici quelques secondes, 4h43 à Paris, 6h43 à Antananarivo. On retrouve d'ici une petite minute nos envoyés spéciaux pour le journal de la Cannes. D'ici là, vous pouvez consulter notre site internet www.rfi.fr.
La radio mondiale. Il y a ce que vous écoutez sur la radio mondiale et il y a ce que vous écoutez ailleurs mais qui passe aussi par RFI. Car sur les 5 continents, plus de 600 radios programment des émissions ou des musiques réalisées, concoctées, sélectionnées par l'équipe de la production musicale. Il s'agit en fait d'un formidable courant d'échange entre RFI et ses radios partenaires. C'est un groupe angolais dont la cassette nous est envoyée par Radio Luanda et dont les meilleurs extraits vont repartir via RFI vers le Chili, le Vietnam, les États-Unis. C'est aussi cet invraisemblable joueur de viol que nous envoie Radio France Puy-de-Dôme et que l'on va écouter à Lima, Jakarta ou Kampala. Chaque mois, 8 programmes musicaux sont proposés aux radios du monde entier. Beaucoup de chansons françaises, bien sûr, mais aussi un hit-parade européen, une sélection de musique tropicale, du jazz, du classique, de la musique traditionnelle et parfois de la salsa.
Et oui, c'est le grand match du siècle en Afrique d'aujourd'hui. Zambie, Côte d'Ivoire, Afrique. 46 9 4 6 7 000, voici chanson thème de la Cannes 2012. 80.5 FM pour nous joindre, tot.pourri@sympathico.ca ou en semaine, tot.pourri@sympathico.ca ou maintenant, 86-986-7000, mais qu'est-ce que je raconte? Nous avons reçu plusieurs annonces de nos amis partenaires de la région, mais aussi à l'étranger. Le Global Network of People Living with HIV, le partenariat Living 2012, sont heureux d'annoncer le lancement du www.living2012.org, le site web officiel du sommet du leadership zéro positif Living 2012. La 13e conférence internationale des personnes vivant avec le VIH soutiendra Washington DC aux États-Unis les 19 et 20 juillet 2012. Je sais qu'il y a encore du temps, mais on aimerait vous prévenir assez à l'avance. Living 2012 est une pré-conférence officielle à AIDS 2012, la 19e conférence internationale sur le sida qui se déroulera du 22 au 26 juillet 2012. Le site web fournit des informations sur la pré-conférence et ses objectifs, son programme et le contexte. En outre, living2012.org est l'endroit où commencer votre participation pour les consultations en ligne qui débuteront au début de l'année, donc 2012. C'est déjà commencé. Allez sur le site, s'il vous plaît, c'est déjà ouvert. Des consultations qui vous fourniront aussi une base à des développements programmatiques et un agenda pour la conférence. Alors voilà, le message est passé. J'espère que nos partenaires nous écoutent et pourront peut-être même y faire partie d'une émission avant la conférence au mois de juin-juillet de cette année. Du Théâtre Français de Toronto, je vous rappelle que ça va en plein, hein, toute une programmation très très intéressante pour l'année 2012. Alors, on vous invite à aller voir une pièce dont plusieurs journaux au Québec et même en Ontario disent de très très belles choses. C'est Sylvie Drapeau sur scène dans la liste de Jennifer Tremblay. Une interprétation prodigieuse, précise, touchante, une virtuose de la scène. Un texte qui ne veut pas nécessairement toucher le spectateur, mais bien le terrasser, nous dit-on. Eh oui, Jennifer Tremblay, qui dit avoir longtemps cherché la forme la plus efficace pour arriver à ses fins, avant d'opter pour de courtes phrases, sèches et directes, un style qu'elle dit inspiré par le courriel. Eh oui, le text mail, le courriel. Ça joue un grand rôle dans la vie des gens aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, synopsis de cette pièce. Sur scène, une femme nous accueille, seule, dans sa cuisine. Sa voisine est morte. Et peut-être dans la faute même de celle qui, assise inconfortablement devant nous racontera son histoire. « Je n'ai pas levé la main sur elle, lui dit la femme, d'entrer le jeu, mais a-t-elle seulement levé le doigt pour lui venir en aide ?» Du 29 février au 4 mars, allez-y, madame, monsieur, avec Sylvie Drapeau, dans le rôle, sur scène, dans la liste de Jennifer Tremblay, jusqu'au 4 mars 2012, au Berkeley Street Theatre Salle Upstairs. Pour tout savoir, allez sur le site de Théâtre Français de Toronto avec la programmation, les horaires, www.théâtrefrançais.com pour tout savoir. Dans un instant, nous allons passer, je pense, à cette nouveauté de, comment ça s'appelle, Zelda, qui revient, retour à la fête et à la politique, nouvel album, second tour. Mais pour tout de suite,
aéroport, encadré d'une escorte. Le père de mon père a servi pour libérer ce pays, qui n'a accueilli le fils de son fils qu'avec mépris. Mon père a bâti ses tours à la gloire de ce pays qui relègue le fils au rang de l'indésirable haï. Nous venons de passer la dernière porte. Maria nous a assez menti, car comme ces deux hommes assermentés, elle ne sait pas tout ce dont on se sépare pour venir ici se perdre parce que nos rêves espèrent. Installé à l'écart des voyageurs, des touristes, je repense à mon périple et à tous les risques. Mesdames, messieurs, je suis les paroles silencieuses cachées dans chaque quartier et ses artères. Je suis les corps asservis, les damnés de la guerre et la main-d'œuvre servile. Je suis la femme de ménage, l'ouvrier du bâtiment que leur loi menace. Dans l'habitacle, la tension est palpable. Je suis celui qu'on dit clandestin, parce que coupable d'avoir rêvé d'un autre destin. Descendant de fiers clans, de grands empires, que vos dirigeants ont mis sur le déclin. Que vos dirigeants ont mis sur le déclin.
Vous écoutez Popori sur CUT 89.5 FM de 11h à 13h chaque dimanche. Popori, une émission réalisée en partenariat avec Radio France Internationale, le département d'études françaises, l'Université de Toronto et l'Alliance française de Toronto. soyez des nôtres sur CUP 89,5 FM ou pour l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde.
From the roof up. CIUT 89.5 FM, broadcasting live 24 hours a day, 7 days a week. The Heart House, University of Toronto.
Toute la diversité de monde sur votre fréquence. Oui, le décès, la disparition de Whitney Houston continue à faire des vagues sur la toile, mes chers amis, le capitaine et Morgan. Nous avons reçu un message de Monsieur Gilles qui nous écoute régulièrement, qui nous dit « Vous avez parlé du décès de Whitney Houston ce matin ». Et même, vous lui avez rendu hommage en diffusant d'une de ses nombreuses chansons à succès. Bien que sa disparition est un événement triste, je me suis posé la question à savoir quel était le lien avec la francophonie. Eh bien oui, il y a un lien. Je ne voulais pas le dire. Alors, le monsieur est allé faire sa fouille, est allé chercher sur le web. Et puis j'ai pensé à son passage sur le plateau avec Serge Gainsbourg. En effet, c'était un moment mémorable, historique. Serge était complètement perdu, disons, dans les patates, pour ne pas dire autre chose. Et c'est ce soir-là, ma chère Morgane, que Serge avait brûlé un billet de 500 000 francs, je ne sais pas. Mais enfin, beaucoup d'argent à l'époque. C'est un scandale sur un plateau, en direct, à la télévision. Eh oui. Et j'ai passé aussi pas mal de compliments, disons, à Whitney Houston, qui était l'invité lors de cette soirée. Mais je pense que notre Serge ne savait pas trop ce qu'il disait à l'époque, n'est-ce pas? Oui. Et puis aussi, pourquoi? Parce que Whitney Houston est très connue et appréciée en France, dans les pays de la francophonie. Même à l'île Maurice, on a été réveillé ce matin par des courriels, des mails. Des gens qui sont très très attristés, et puis dans des bars, des restaurants, des cafés, des lounges, il y a même des drag queens qui ont repris les chansons de Whitney Houston un peu partout. Je suis convaincu, si vous allez dans les shows de drag queens ce soir, demain, la semaine prochaine, ou peut-être le mois prochain, vous allez voir, ils vont à leur façon, les drag queens, rendre hommage à Whitney Houston. Ça va nous manquer, hein? Qu'est-ce qui se passe dans notre monde culturel, artistique? Alors, francophonie, pas francophonie, pour nous c'était une grande artiste, une grande voix que le monde entier vient de perdre à 48 ans seulement. Alors, chanson française de retour. Mes chers amis, connaissez-vous Zebda? Eh oui, ils sont de retour à la fête et à la politique. Un nouvel album, second tour, à quelques mois de l'élection présidentielle française, le groupe Zebda occupe à nouveau la tribune et reprend le combat politique. Second tour, premier disque depuis 10 ans. Livre l'essence d'un groupe aux rimes et aux mélanges toujours pas ordinaires. À Toulouse, on garde encore le souvenir d'une campagne électorale menée en chantant. C'était il y a un peu plus de 10 ans, et à l'époque, on a bien cru que Zebda et sa liste citoyenne, motivée, pourraient investir la mairie. Et oui, alors quand le groupe a annoncé sa reformation après une longue parenthèse entamée en 2004, la Ville Rose s'est mise à invoquer jusqu'à Saint-Claude Nougaro. Ah, tu verras, vous vous souvenez. Ah oui, lui aussi il est parti un peu trop tôt, ce monsieur. Et oui, donc, on attendait fermement le retour de Zebda, et ben le reste de la France, moins investi, s'est lui contenté d'un pourquoi pas. Mais non, second tour, cinquième disque de Zebda, produit entre son studio de Toulouse et de New York, et donc né de cette envie de convaincre. Pour ce faire, le groupe a annoncé un retour à ses fondamentaux musicaux, la fête, le métissage, l'album qui oscille entre rythme festif et douce mélancolie qui a cette promesse. Il y a du ska, du reggae, de ces boucles aux accents du Maghreb qui faisaient déjà le charme des premiers disques du groupe Zebda.
Il était doux, il était jaille, il était jean. Voici l'histoire de celui qui portait pas de jean, mais des tissus bariolés de l'Afrique, avec du plastique. Il vivait là au milieu des bâtiments et racontait à succès tous ses boniments, l'histoire d'un pays qui raconte aux enfants que c'est nous les méchants, c'est nous les plus méchants.
notre chapeau. Un pays qui veut nous protéger des malheurs. Il veut être le gendarme, c'est nous les voleurs. Tu m'aimes, 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 tu
membres de ce groupe dans la ville rose était archi complet, me dit-on. Allez sur leur site. Nous remercions beaucoup la participation de Radio France Internationale pour cette excellente collaboration. Zebda, Madame, Monsieur, avec le dernier tube de leur album, second tour, le dimanche, autour de l'église.
Le dimanche autour de l'église, avec tous les yeux des balises, arrivent les desperados. La séance du visage chargé, de n'importe quoi des objets, que t'en veux pas comme cadeau. Sans le roi du bar à le matin, qui vous arrache de sa forme, ou
vient des Roumains, dangereux, des gitans de Carcassonne, ça dépend. Et chacun dit à sa façon, au soleil des contrefaçons. Une place jusqu'à midi, mais ils sont pas pour réguliers. Qui les sont servis les premiers, d'ailleurs ils arrivent à nos vies.
Y'a, autour de mon église et partout y'a, c'est l'un de tous ces mélanges de chouïa. Y'a pas de prénom, y'a que le bourgouïa, qu'on appelle aussi des concrètes. Y'a, autour de mon église et partout y'a, c'est l'un de tous ces mélanges de chouïa. Y'a pas de prénom, y'a que des chouïa, ou qui n'est pas tes interprètes.
Y'a des mecs qu'on dirait qu'ils sont ramadan tout sur l'année, moi j'appelle ça du cadeau. Ils se vendent du patrimoine, des trucs qu'on jamais vu la douane, des cigarettes et des dents. Y'a des filles de tous les quartiers couvertes de la tête aux pieds, même quand c'est la canicule. Vendent des stringos, oui, comment réduisent ces sous-vêtements, et trouvent pas ça ridicule. Je vends donc qu'elles ne comprennent pas, elles n'ouvriront pas le compas. Car si tu pas d'être un garçon, encore faut-il être du mou, de la grande, c'est que ce mot, tu la connais bien la chanson.
Y'a, autour de mon église, et partout y'a, c'est là que tout se mélange, je suis y'a. Y'a pas de prénom, y'a que des rouya, et qu'on appelle aussi des princesses. Y'a, autour de mon église, et partout y'a, c'est là que tout se mélange, je suis y'a. Y'a pas de prénom, y'a que des rouya, ou qui n'est pas célèbre, interprète.
Dans l'église, le vieux gratté, vous chantez dans les salles latines, dehors certains des contre-sons. Des Sénégalais du garçon, qui parle avec le mot con, voudrait qu'on la chaîne dans mon volant. Les Roumaines, même l'air vague, se font regretter une vague. Il faut qu'elles fassent de l'argent, sinon on les asticots des pères d'amour. Moi, des jours comme ce jour-là, je me dis, je me sens chez moi, parce que c'est une journée banale. Ce jour-là, je me sens pas seul. Il sait qu'il se prend dans sa gueule, l'identité nationale.
Y'a, autour de mon église, et partout y'a, des noms de tous ces mélanges, chouïa. Y'a pas de prénom, y'a que des chouïa, qu'on appelle aussi des trompettes. Y'a, autour de mon église, et partout y'a, des noms de tous ces mélanges, chouïa. Y'a pas de prénom, y'a que des chouïa, ou qui n'est pas de l'interprète. Y'a, autour de mon église, et partout y'a, des noms de tous ces mélanges, chouïa.
Mais les conseillers pas les payer.
y aller, y aurait fallu. Pour mes fonds agissés, y'a pas gêné, y'a l'offre, la vie de mes pieds, y'a le pire comme bouillon, pas fait pisser, ouais. Ma vie est très vive, et quoi nous payer. On nous pas parlé, d'ailleurs, on mal, haïtien aussi, c'est nègre. Ni haïtien qui porte, y'a haïtien qui s'élève. Y'a qu'on s'y passe, y'a fini la vie, la vie. Y'a qu'on s'y couvrir, parce que aussi, y'a ni de guerre. Pas parlé, d'ailleurs, on mal, haïtien aussi, c'est nègre. Ni haïtien qui porte, y'a haïtien qui s'élève. Y'a qu'on s'y passe, y'a fini la vie, la vie. Y'a qu'on s'y couvrir, parce que aussi, y'a ni de guerre. J'ai pu monter par Rio Gratis, au bon immigré. Qui ont fait les gars, qui ont signé ou qui ont senti guiné. Mon caga de mon arrivo, qui ont senti déséquilibré. Pas sous nec, ou incriminé. Yeah, yeah, yeah. Nec, diable, et misère. Ou pas nec, ou 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 haïtien aussi c'est nègre, ni haïtien qui forme, haïtien qui se lève. La constipation aussi ni l'envie de vivre, nos capes en vie se couvrir. Parce que aussi on dit des rêves, on va parler des gens mal. Mais haïtien aussi c'est nègre, ni haïtien qui forme, haïtien qui se lève. La constipation aussi ni l'envie de vivre, nos capes en vie se couvrir. Parce que aussi on dit des rêves.
Ouais, y'en écoute tout, tout pour y'en écoute. En 2009, on est obligé de dire ça toujours. C'est pas normal. Comme ça, d'aller plus loin qu'ici. Haïti, première nation nègre libre, a réduit le nom. C'est pas la voix, il n'y a pas de vrai majeur de tête. Tête, vivre libre ou mourir. Alors, c'est bon, plutôt. Nous gagnons, nous. C'est là qui plus moins l'Afrique. C'est là qui plus semble l'Afrique. Sous sa famille. Moi, j'ai respect pour Haïti. Moi, j'ai été avec vous. Moi, j'ai l'amour pour Haïti. Alors c'est un souhait, pas très venu, pays en nous ici, mais si nous pouvons, c'est pour des, si nous pouvons, c'est pour toi. Ensemble nous qualités, ensemble nous faisons. C'est la plus loin qui dit.
Apprenons le rythme et la cadence. Le rythme est ravi et la cadence.
Thank you.
Dans le lounge de Popori Fia Yuki qui est dans le point 5 FM, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de monde, n'est-ce pas? Le capitaine Boudera, Morgane, où est passé Morgane? Bonjour Morgane,
ça va? Ça va.
Et vous avez une autre activité?
Ouais, quelques trucs qui se passent cette semaine. Il y a l'apéro chic à la Pravda. Alors l'apéro chic, c'est une petite association, je crois, qui organise des petits événements francophiles et francophones. Avec la célébration du Beaujolais Nouveau, la Galette des Rois. Alors cette fois-ci, c'est la nouvelle édition. Ça aura lieu le mercredi 15 février à la Pravda Vodka Bar sur 44 Wellington Street East à partir de 18h. Et donc voilà, célébration à la vodka, visiblement, pour se réchauffer.
On se revoit autre chose
Juste à l'Alliance française, mercredi, il y a quelque chose d'intéressant aussi. Ça se passe à 19h, une conférence sur la cinématographie à Toronto. De 1896 à nos jours, animé par Eric Vellette, qui est un journaliste indépendant. Donc apparemment une exploration du patrimoine des salles de cinéma des grands palais de la rue Yang aux petites salles des quartiers de l'Est et de l'Ouest à Toronto. Donc le paysage cinématographique de Toronto à découvrir mercredi soir à 19h à l'Alliance française.
Et ne pas oublier la perspective Robert Bresson, l'un des réalisateurs français de l'après-guerre les plus vénérés au Tisbel Lightbox, la rue Queen. Et ça dure jusqu'au 18 mars. N'est-ce pas?
Tout à fait.
On se revoit dimanche prochain.
Oui,
et on vous souhaite passer une très bonne semaine.
Ah, oui,
quelque chose en perspective, très intéressant.
C'est mon anniversaire.
Ah ben, on vous souhaite un anniversaire canadien. On fêtera ça, n'est-ce pas? Ouais. Avec du sirop d'érable. Obtenu, on ne
et
boit pas.
Oui.
Je remercie beaucoup le magazine de Radio France Internationale et surtout tous les collaborateurs et les partenaires. Ron Devera, Morgane, l'Express de Toronto, Marc-André qui n'est pas avec nous aujourd'hui mais qui sera des nôtres sans doute la semaine prochaine. Et je vous donne rendez-vous, mesdames, messieurs, dimanche prochain. En attendant, vous pouvez vous joindre à tot.courrier@sympatico.fr. Nous partons avec la Zambie contre la Côte d'Ivoire. Qui sera l'heureux gagnant, le champion, d'après vous? Zambien, Ivoirien. Vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien. Non, Ivoirien ou Zambien. Allez, salut, bonne chance. Que le meilleur gagne. Yeah.
pour le temps.